Bienvenue au Polysécur épisode technique. Je suis commandant Alexandre. Comment vas-tu?
Bonjour, bonjour. On se voit souvent ces temps-ci.
Oui.
On a parlé de Blast Radius il n'y a pas si longtemps, mais écoute, tout va très bien. Aujourd'hui, on va parler de Regression. Est-ce que Regression. Je le dis directement?
Je sais, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a l'air de se prononcer, oui. Un autre vulnérabilité qui est apparue dernièrement, parce que ça fait un mois, à peu près un mois au moment où on enregistre qu'elle a été rendue publique. Elle a été connue avant ça, là, elle était dans l'ordre de séquence. Ça l'a fait également, comme Blast Radius, beaucoup de bruit avec et pour de mauvaises raisons aussi. Fait que je vais te laisser expliquer le bug, puis on va descendre avec ça.
Pas de souci. Donc, Regression avec SSH en majuscule au milieu, c'est très, très joli, puisque c'est un bug qui impacte finalement l'implémentation OpenSSH. Alors, je précise l'implémentation OpenSSH parce qu'il existe d'autres serveurs qu'OpenSSH. Mais OpenSSH est la plus connue, donc qui est maintenue par l'équipe de développeurs d'OpenBSD et qui est quand même un logiciel très sécurisé. Ils sont relativement forts chez OpenBSD et si vous regardez un petit peu l'historique d'OpenSSH, il n'y a pas vraiment énormément de vulnérabilités qui l'impactent, si ce n'est je vais peut-être faire cette référence puisque je suis vieux maintenant à Matrix. Tout le monde se souvient peut-être de cette scène dans Matrix premier du nom 2001, me semble-t-il, où Trinity, et je crois que c'est la première fois au cinéma où on voit un véritable exploit puisque Trinity utilise le fameux bug de CRC32 compensation qu'on appelait aussi Nuke SSH pour justement exploiter une vulnérabilité dans SSH. Je vais mais à date, j'ai pas en tête d'autres vulnérabilités d'exécution de code à distance avant l'authentification. Donc c'est quand même quelque chose d'assez safe là, puisque je parle des années 2000 et là on est en 2024. Donc ce bug là, pourquoi on l'a appelé Regression? Donc c'est pas forcément amusant, mais c'est un bug qui existait en 2006 sous le nom de CVE 2006-50-51, qui était en fait, donc là on parle d'OpenSSH 4.4, on en est loin, qui permettait justement l'exécution potentielle de code à distance sur SSH. Mais historiquement, dans la nature en tout cas, on n'a jamais vu d'exploit fonctionnel pour cette vulnérabilité. Donc cette vulnérabilité a été fixée et malheureusement, dû à une petite erreur de l'un des développeurs, je vais appeler ça une erreur parce qu'on n'aura peut-être pas le fin mot de l'histoire, il y a une ligne de code qui a été modifiée. Alors, je fais une petite parenthèse ici pour les gens techniques qui veulent s'intéresser un petit peu aux détails un petit peu velus du code. Tout est documenté dans le papier de recherche de Qualys. En fait, il y a eu une erreur qui s'est passée, je pense, à la fin de l'année 2020. Qui a réintroduit ce bug, donc d'où le nom Regression, et qui a permis en fait de réexploiter un petit peu le même type de vulnérabilité qu'on avait découvert en 2006 et qui permettait justement de d'exécuter du code à distance au travers des SSH sans être authentifié. Donc quand je parle d'exécution de code à distance ici, c'est avec les privilèges root, hein. Il n'y a pas de, il faut un nom d'usager ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment pour exécuter du code privilégié. Et peut-être pour rentrer dans un petit détail technique, c'est un bug de race condition, comme on l'appelle. Alors, j'ai pas le terme en français. Là, je voudrais faire plaisir à tout le monde. Je crois qu'on appelle ça situation de compétition ou de concurrence. Je m'excuse encore. Je suis pas très, très bon sur les termes techniques anglophones.
Ouais, ça n'est bien un que je suis pas capable de traduire non plus parce qu'il est tellement peu utilisé dans ce qu'on a à écrire en français que ça m'est jamais arrivé de devoir l'expliquer. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, puis c'est un point intéressant, justement ce problème de régression-là. Puis c'est un rappel assez important pour tous ceux qui développent de bien documenter son code, parce que puis là, on va présumer que la personne qui a retiré la ligne en question était de bonne foi. Donc, elle ne savait pas que cette ligne-là réglait un problème initialement qui est quand même très longtemps, somme toute, quasiment 20 ans maintenant que le bug a été réglé. Donc, la connaissance s'est probablement perdue avec le temps. Donc, si on n'a pas cette capacité-là, de suivre les raisons pourquoi on a fait des choix. Et dans le choix, dans ce cas-ci, ben, justement, ça a une chance de se perdre comme ça s'est perdu dans le cas qui nous occupe.
Exactement, là, toujours faire un petit peu attention et puis de rouler tout simplement des sets de tests quant à avant la compilation et puis la release d'un logiciel. Mais bon, dans le cas d'OpenSSH, en tout cas, ça se révèle relativement rare. En ce qui concerne la race condition, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais pour faire simple, il y a un chemin de code qui est emprunté à un moment qui peut paraître unsafe, en fait, donc non sécurisé, et qui permettrait à ce moment-là, donc dans cette petite time frame, d'exploiter un bug dans le code. Donc c'est le cas ici de cette réimplémentation de cette vulnérabilité dans SSH, qui fait qu'à un instant T, il est possible d'injecter du code et de le faire exécuter par le démon SSH et qui va permettre d'obtenir des privilèges élevés sur la machine. Donc, pour faire court aujourd'hui, la recherche est encore, parce qu'il faut savoir que le papier de recherche a été diffusé sur Internet. On a quand même des patchs qui sont sortis. La version, je vais pas dire de bêtises, la version 9.8P1 d'OpenSSH est safe. Donc, je répète, 9.8P1 et plus sont patchés aujourd'hui, mais les versions antérieures ne le sont pas. Donc, il y a vraiment un tout petit segment entre 2020 et 2024 dans toutes ces versions d'OpenSSH qui sont en fait vulnérables, puisque là, on a toutes les versions de 8.5 à 9.7 qui sont vulnérables. Donc, ça spanne un petit peu sur, je pense, 3-4 ans à peu près. À noter d'ailleurs que, bizarrement, les systèmes OpenBSD, donc nos amis qui développent OpenSSH, ne sont pas vulnérables, en fait. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais c'est la manière dont OpenBSD implémente les signaux sous Unix qui fait que les fonctions vulnérables ne sont pas appelées par le système, donc ça ne permet pas d'exploiter la faille. Alors pour rentrer peut-être dans le détail un petit peu plus technique sur cette faille, c'est quand même compliqué de l'exploiter. Hein. Je sais pas si tu as lu sur la vulnérabilité, Nicolas Loïc, mais...
Un peu, oui. J'ai eu quelques cheveux blancs après cette lecture. Quelques cheveux blancs supplémentaires qui sont sortis parce que ça demande justement pour initier la race condition, ça prend déjà un état défini et cet état-là, ensuite, il faut qu'il soit exploité sur un système préférablement 32 bits, mais ça a des choses comme ça. Sur un système qui a été compilé avec glibc, le nombre de paramètres de base est quand même assez significatif de préconditions pour nous amener à pouvoir aller jusqu'à la corruption de mémoire, finalement, pour exploiter la vulnérabilité.
Oui, absolument. Le papier de recherche, en fait, c'est basé sur des implémentations 32 bits, faisant usage de la glibc aussi. Hein. Je ne l'ai peut-être pas précisé, le système doit faire usage de la glibc. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va exploiter en fait des fonctionnalités de la glibc qui sont connues comme vulnérables. Ici, je vais parler de malloc, par exemple, qui permet d'allouer de la mémoire en espace mémoire, ou free, qui permet de libérer un espace mémoire sur le système. Donc, en fait, comment ça se passe? Tout se base plus ou moins sur un paramètre que vous connaissez peut-être si vous avez déjà configuré des serveurs OpenSSH, qui est le login grace time, c'est-à-dire lorsqu'on va initier une connexion à un serveur SSH, vous allez avoir un prompt qui va vous dire c'est quoi votre password. Et en fait, c'est durant cette période, vous avez une session d'établi avec le serveur. Vous n'êtes pas authentifié, mais vous avez une session quand même d'établi avec le serveur. Alors, par défaut, de mémoire, c'est 120 secondes, ce qui est quand même relativement long, hein, on s'entend. Vous avez 120 secondes pour vous authentifier. Après ça, le serveur va se déconnecter, tuer le processus, et puis il va falloir se réauthentifier. Et en fait, c'est cet espace de temps qui va être exploité pour tenter d'exécuter en fait du code à distance sur le démon SSH. Tout se passe en fait dans un signal Unix qui est appelé lors de la déconnexion, qui est le SIG alarm. Alors là, je vais baragouiner du jargon technique, mais tout le monde sait ce que c'est en fait. Pour ceux qui font par exemple de l'exploitation, vous avez déjà vu le SIG SECV. C'est vous avez un buffer overflow, puis là il y a le système qui dit SIG SECV. Ben c'est parce que il y a eu une corruption mémoire quelque part, donc il y a eu un core dump, donc c'est un vidage mémoire qui s'effectue au niveau du noyau de la mémoire, pardon. Il y a SIG kill quand on va tuer un processus, par exemple, sous Unix. Et là, c'est le SIG alarm. Donc, en fait, c'est un signal qui est levé au bout d'une certaine période de temps. Le problème, c'est que l'implémentation de la gestion de ce signal dans OpenSSH, en tout cas dans l'implémentation vulnérable d'OpenSSH, en fait, faisait appel à des fonctions non sécurisées. Donc, je parlais de malloc. Et free, qui sont exploités tout simplement dans le bug dont on parle aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là sur les détails un petit peu techniques, mais vu qu'en fait on exploite une corruption mémoire, pour les chercheurs, c'était plus facile d'utiliser des systèmes 32 bits. Pourquoi ? Parce que on a moins d'octets en fait pour faire ce fameux brute force, parce que l'attaque est basée sur un brute force. Qui demande beaucoup, beaucoup d'essais et beaucoup, beaucoup de temps avant de pouvoir en fait exécuter du code à distance sur le système. Là, si je sors un petit peu les statistiques, parce que je ne les ai pas en tête, je crois que le premier essai a été fait sur la version OpenSSH 3.4 et ça leur a pris 10 000 essais en moyenne avec 10 connexions concurrentes et un logging race time de 600 secondes. Donc, on est loin, en fait, de la valeur par défaut qui est de 120 secondes. Savoir que 600 secondes, c'est le maximum. On peut pas aller plus loin avec OpenSSH. Et ça leur a pris une semaine pour obtenir un root shell. Donc là, vous voyez un petit peu l'idée derrière. C'est exploitable, mais il faut avoir du temps. Il faut connaître, je pense en partie au moins la version précise d'OpenSSH derrière, et peut-être un petit peu de chance, hein, je crois. Ça va être nécessaire. Et je crois que la version la plus récente qu'ils ont testée, c'est la version 9.2, et c'est là où ils ont eu peut-être un petit peu plus de chance. Donc là, c'est la même chose. À peu près 10 000 essais pour obtenir. Donc, les 10 000 essais, c'est pour exploiter la race condition, hein, la race condition où il faut vraiment qu'au bon moment, en fait, on arrive à déclencher la vulnérabilité. Ça leur a pris 3-4 heures avec 100 connexions en parallèle et un logging race time de 120 secondes, donc qui est plus ou moins la norme, en tout cas la configuration par défaut.
Ouais. Donc, c'est quand même bruyant aussi. Ce genre d'attaque-là, si le système est moindrement surveillé, on n'est pas dans un contexte d'une attaque silencieuse, lente et silencieuse. On est dans genre, on rentre et on défonce tout en espérant que personne ne nous surveille.
Ah oui, absolument. Ça laisse quand même beaucoup de logs. C'est une attaque bruyante. Ce que vous allez voir, en fait, dans les logs SSH, c'est « timeout before authentication ». Donc, vous allez en voir des quantités. Donc, on parle pas encore de mitigation maintenant, mais c'est un moyen aussi de voir qu'on a quand même une tentative d'exploitation. Et là, je parle des systèmes 32 bits. Je vais peut-être debunk aussi quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, j'ai vu beaucoup de posts sur Internet qui disaient « Ah, mais il faut avoir un système 32 bits sans ASLR. » Donc, ASLR... Address Space Layout Randomization, qui est un système de protection mémoire qui permet en fait d'allouer du code à des endroits un petit peu aléatoires, si je peux simplifier ça comme ça. C'est faux. Comme je le disais au début du podcast, c'est une recherche qui est en cours. C'est sûr que un brute force sur un range de 64 bits est beaucoup plus long que sur du 32 bits. Donc, on a tendance à dire que ça va être pas exploitable, je dirais que c'est peu probable pour le moment, mais c'est pas impossible. Les recherches sont en cours. Sait-on jamais, peut-être que ce sera faisable sur à l'avenir. À savoir qu'il n'y a pas de... je crois que Qualys... je me trompe peut-être, Nicolas Luc, laisse-moi savoir, mais je crois qu'il n'y a pas de preuve de concept qui a été diffusée sur Internet. En tout cas, Qualys a décidé de ne pas diffuser de preuve de concept.
J'ai pas plus d'informations que toi. J'ai fait mes recherches, mais j'ai rien vu à ce moment-ci qui parlait de ça. Mais encore là, je peux me tromper. J'accepte. Dites-le nous dans les commentaires si on s'est trompé.
Ah, peut-être qu'au moment de la diffusion, il y aura une preuve de concept, mais de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas de preuve de concept diffusée sur Internet. D'ailleurs, chose amusante, par contre, il y a beaucoup de fausses preuves de concept, mais là, on n'apprend rien à personne. À chaque fois qu'il y a un nouveau bug qui sort, on a toujours 250 preuves de concept qui sortent 3 jours après. Toutes les preuves de concept que vous pouvez trouver aujourd'hui sur Regression sont fausses. Ne les exécutez pas. J'ai lu quelques articles, notamment de Kaspersky, qui parle en fait de certains repos GitHub qui hébergent de fausses preuves de concept qui vont tout simplement exécuter du code malveillant sur votre machine. Toutes ces preuves de concept ciblent évidemment les chercheurs en sécurité. Et en fait, c'est très smart parce qu'en fait, ils assument. Alors déjà, quand vous exécutez un POC, faites-le dans une machine virtuelle, quelque chose de déconnecté du réseau. Enfin, est-ce que j'apprends quelque chose là maintenant?
Non, mais des chercheurs plus juniors vont peut-être tomber dans ces pièges-là, ou ceux qui sont en mal de sensations fortes, cybersécurité, qui veulent tester des choses, parfois peuvent s'être avérés un peu plus négligents, un peu moins connaissants de ce côté-là. Fait que c'est probablement pas les kings en recherche qui vont attraper, mais genre des gens plus débutants ou des gens qui veulent impressionner la galerie ou ce type de personnes-là qui est un peu moins connaissant des bonnes pratiques. Là.
Donc, faire attention avec ça. Et puis, le second aspect, que ces acteurs malveillants ont été exploités, et puis ça, je me sens ciblé, et je pense comme tout le monde ici, c'est le fait que quand on va rouler du code exécutable pour exploiter un bug, on fait ça souvent sur une machine avec tout antivirus ou EDR désactivé, pour éviter de trigger finalement celui-ci. Et bon, ça facilite tout de suite l'exploitation. On met un bon vieux Meterpreter ou River Shell ou ce que vous voulez, et puis ça roule tout seul parce que y a pas de protection. Mais donc faire attention à date de ce que j'ai vu sur les preuves de concept en ligne, c'est que du malveillant. Donc évitez de les exécuter.
Oui, puis peut-être un autre appel, regardez le code que vous exécutez. Là, tu disais que c'était sur des repos de GitHub. Ben, vous êtes capable d'aller le code. Fait que exécutez pas de façon aveugle les choses, justement. Puis sont généralement pas très subtils quand ils essaient de prendre possession du système, parce qu'ils vont présumer beaucoup de choses qu'en général, on est un peu plus, comme tu mentionnais, il n'y avait pas d'EDR, mais probablement que les accès sur le système sont un peu plus élevés qu'à la normale, que ça se pose, et ainsi de suite, donne des situations qui peuvent justement favoriser une prise de contrôle rapide. Et probablement qu'ils n'ont même pas besoin de faire un exploit, ils vont juste faire genre je me grind quelque chose, j'installe, puis ciao bye, très très simplement, fait que c'est pas juste vérifier, au minimum vérifier ce que vous exécutez là.
En effet. Puis peut-être avant de parler de tout ce qui est recommandations suite à cette faille, l'idée aussi du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de systèmes 32 bits qui exécutent OpenSSH aujourd'hui. Je pense que c'est clair qu'aujourd'hui, tout le monde va exécuter probablement du 64 bits, un serveur 64 bits, mais pensez peut-être aussi à tout ce qui est IoT exposé sur Internet. Il faut savoir que ces systèmes n'ont pas besoin d'un espace mémoire gargantuesque. Donc, il y a quand même beaucoup de petits systèmes qui roulent encore, ou des systèmes obsolètes ou vieillissants qui roulent sur du 32 bits. Donc, je pense qu'il y a quand même une surface d'attaque intéressante sur Internet. Peut-être que demain matin, il y aura une preuve de concept très optimisée qui permettra de faire ça en moins de temps, on sait pas. J'attends encore de voir une véritable preuve de concept de l'exploit pour le tester moi-même. Mais on a encore quand même beaucoup de systèmes 32 bits, je pense, exposés sur Internet. Tout ce qui est système embarqué... Notamment, on parle d'Intel, mais on a MIPS, toutes les architectures qui existent aujourd'hui peuvent être exploitables.
Oui, puis on parle de systèmes qui sont plus difficiles à exploiter aussi. Pas exploiter, mais excuse à corriger, ou qu'on ne corrigera pas, parce que c'est sûr que tous nos systèmes modernes, les serveurs et ainsi de suite, sont tous 64 bits maintenant, puis depuis très longtemps. Ce qui est pas, ce qui est tout à fait vrai avec tout ce qui est, comme tu mentionnes, du IoT, mais tous ces vieux systèmes-là, toutes ces vieilles choses-là qui, parfois, on a oublié qu'ils existaient sur Internet, ou même si on l'a, on présume qu'ils ont suivi, mais qu'ils n'ont jamais suivi aucune mise à jour depuis les 30 dernières années. Là.
En effet. Donc là, en termes de recommandations, je pense patcher. Je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est la version 9.8 P1 qui a été patchée, donc celle-ci est supérieure. Donc, je pense que l'idée aujourd'hui, c'est surtout de commencer à patcher des serveurs. J'ai un ami, justement, avant ce podcast, il y a quelques semaines, qui discutait avec moi, qui travaillait chez Microsoft, qui me disait « Alex, est-ce que je dois commencer à patcher mes systèmes partout ?» Parce que eux aussi utilisent quand même des systèmes qui sont basés sur Unix. Hein. Donc, ils ont Microsoft a fait cet effort, en tout cas, pour patcher toute leur distribution basée sur Unix. À noter que, d'ailleurs, je fais peut-être une parenthèse ici, l'implémentation du serveur SSH Microsoft n'est pas vulnérable. Tout simplement dû à de trop grosses différences, en fait, du système d'exploitation, évidemment, entre Unix et Windows. Donc, celle-ci n'est pas vulnérable. Mais aujourd'hui, la recommandation, c'est vraiment de patcher, en fait, cette vulnérabilité. Je pense qu'il y a aussi tout ce qui est gestion des accès. Enfin, aujourd'hui, vous avez un serveur SSH exposé sur Internet. Alors, j'ai l'impression que c'est une norme. Tout le monde dit oui, mais voilà, SSH exposé sur Internet, c'est normal. Oui, non. Disons que ça se discute. Voilà, on va peut-être pas faire le débat maintenant, mais ça se discute. Ça reste une porte d'entrée. Moi, quand je pense à SSH sur de l'IoT, c'est mot de passe par défaut. Et puis, de toute façon, j'ai pas besoin d'exploiter une faille pour accéder à l'équipement. Mais exposer SSH sur Internet, c'est une chose. Moi, je recommande quand même de mettre une liste d'IP, une liste d'autorisation. Hein, utiliser tout simplement un pare-feu en disant, voilà, si ça provient de ces IP, tu peux laisser la personne rentrer. Sinon, bah, tu bloques l'accès. On a également tout ce qui est fail to ban. Alors, je vais peut-être dire une bêtise. Donc, le fameux module fail to ban qui permet de limiter les tentatives de brute force sur les services SSH. Alors là, vu que c'est pas une authentification, je sais pas si fail to ban est capable de le catcher. Je ne sais pas parce que j'ai pas regardé, j'ai pas pu tester. Parce que c'est pas vraiment une demande d'authentification. Là, ça va être exploité de manière assez différente. Donc, de toute façon, l'audit des logs peut révéler les tentatives d'exploitation plus simplement.
Ouais, la limite au modifier fail to ban pour intercepter ce type de requête-là, ça doit pas être très, très compliqué à mettre en œuvre de toute façon, là. Puis je vais racheter sur le fait de pas exposer du SSH ou la façon de l'exposer. Moi, je vais plus sur le modèle, comme on voit régulièrement maintenant en info numérique davantage, d'utiliser ce qu'on appelle un bastion, essentiellement un jump host qui va servir de point unique d'entrée pour tout ce qui est SSH à l'interne de l'organisation. Si on veut en exposer, vaut mieux passer par une machine qui, elle, est adaptée à ce genre de choses-là. Donc, elle, dans le cas qui nous occupe, va être 64 bits, patchée tout le temps régulièrement et ainsi de suite, avec des mesures de sécurité qui seront extraordinaires, contrairement à des machines qui, dont des IoT, on prend cet exemple-là, qui n'ont pas ou ne peuvent pas suivre le rythme des changements et des améliorations et des correctifs qu'on peut appliquer. Là.
Puis je pense que la dernière recommandation que j'ai vue, c'était de mettre justement le fameux logging grace time qui est exploité à zéro. Ça marche, ça fonctionne. Vous pouvez mettre le logging grace time à zéro. C'est juste que en faisant ça, on s'expose facilement à du déni de service. Tout simplement parce que votre démon SSH, il va dire, voilà, je vais supporter peut-être 10 connexions en parallèle avec un logging grace time à zéro. Donc, si moi, en fait, je m'amuse à occuper ces 10 tentatives de connexion en parallèle, vous n'allez pas pouvoir vous connecter. Donc, peut-être faire usage de cette solution couplée à un pare-feu qui va filtrer les adresses IP en 30.
ou un type de fail-to-ban adapté pour intercepter ce genre de tentative-là d'attaque qui vient d'un IP spécifique, puis de le barrer pendant une période spécifique justement pour qu'il arrête de faire son valeur. C'est quoi que c'est pas parfait, là? Je suis sûr que des gens vont me dire non, mais tu sais, on peut multiplier les IP avec des services cloud. Oui, mais au moins on augmente notre degré de protection et on limite les problèmes.
En tout cas, de mon côté, ça fait pas mal le tour. On aurait pu parler du code source, mais bon, là, à l'oral, ça va être compliqué si je commence à sortir les variables qui vont pas. C'est quand même un sujet relativement intéressant. J'ai quand même très hâte de pouvoir tester moi-même dans un lab la vulnérabilité, voir à quel point c'est faisable. Mais en tout cas, sujet super intéressant parce que c'est quand même... Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu du remote code execution sur OpenSSH. Et si on arrive à optimiser ça pour peut-être faire ça en quelques minutes, ça pourrait devenir très dangereux.
Oui, absolument. Puis c'est ce que j'appelle des vulnérabilités de old school, c'est-à-dire que c'est plus dans l'ancien monde dans lequel on avait ce type de vulnérabilité-là. Car maintenant, on se concentre principalement sur le monde web où ces notions-là n'existent pas, le risk condition n'existe pas en tant que tel, ou tous ces regards-là de façon d'exploiter est beaucoup moins là ou est différent de toute façon. C'est intéressant de voir, mais intéressant. Je souhaite la meilleure des choses pour OpenSSH, mais de voir qu'il y a encore de la recherche légitime qui se fasse justement pour régler des problèmes comme ça qu'on n'aurait pas vu passer, puisque les acteurs malveillants, c'est sûr qu'ils ont trouvé ou ils ont vu ou ils ont fait bien avant ce genre de choses-là, fait que c'est toujours utile d'avoir ce genre de recherche-là et justement de pouvoir la vulgariser et de la transmettre au plus grand nombre.
Absolument. Écoute, je finirai juste en disant que je recommande à tout le monde d'aller lire le papier, en tout cas pour les plus techniques d'entre nous, d'aller lire le papier de recherche de Qualys qui est vraiment excellent. Il y a plein de détails sympathiques, c'est ponctué de citations d'un groupe de musique obscure que je ne connais pas. Bref, je vous laisse découvrir. C'est assez amusant.
Faut que ce soit un peu plus drôle que juste de la lecture de choses comme ça. Je te remercie énormément. Toujours très intéressant ces choses-là, cette vulgarisation-là de ces vulnérabilités-là qu'on a. On va sûrement en avoir d'autres. Surtout que ce soit pas trop régulier parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de vulnérabilités qui ont été trouvées d'un côté, mais de l'autre côté, je pense qu'on n'est pas sûr à la fin de terminer de vulnérabilités. On va sûrement s'en reparler très prochainement.
Merci Nicolas Loïc.
Merci.